Bonsoir à tous. Les bénévoles de l'association Jalmal sont heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence. Nous remercions le directeur et le personnel de l'espace Mendès France qui nous permet de faire cette conférence avec les moyens techniques qu'ils ont à disposition. D'ailleurs, j'en profite pour dire tout de suite qu'ils enregistrent la conférence et que dans 15 jours, 3 semaines, ils nous rediront le numéro du mail qu'il faut faire et vous irez retrouver le contenu de la oui, c'est plutôt un site, hein. Vous le direz tout à l'heure, Madame Guiton. Voilà, donc on le redira tout à l'heure si vous avez oublié. Donc ce soir nous accueillons Monsieur Billet, sociologue que beaucoup connaissent, qui a beaucoup travaillé sur le vieillissement. D'ailleurs, il est l'auteur de plusieurs livres dont il va vous parler tout à l'heure. Et donc, M. Billet qui va animer cette soirée sur vieillir et mourir accompagné. Effectivement, nous avons peur de vieillir, de mal vieillir, de finir seul. Nous avons peur de ne plus être aimé, peur de devenir dépendant, peur de devenir dément. Et nous conjurons cette peur dans un déni pathétique au lieu de vivre cette expérience du vieillissement comme une nouvelle étape où nous pourrions continuer à apprendre et à nous transformer. Effectivement, nous allons continuer à nous enrichir nos relations, affirmer nos valeurs, transmettre nos valeurs et surtout continuer à aimer jusqu'à notre mort. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons demandé à M. Billet de nous éclairer. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole. Volontairement, je n'ai pas représenté l'association Jalmalve. Beaucoup connaissent Jalmalve, son implication. Donc, je rappelle en deux mots les objectifs qui sont... Tout d'abord, accompagner les personnes très malades ou en fin de vie, accompagner les personnes âgées, soutenir les personnes qui sont en deuil. Et puis, et c'est aussi un très important pour l'association Jalmalve, de sensibiliser chacun d'entre nous, effectivement, à la maladie grave, à la mort, à la vieillesse, au deuil. Et c'est ce que nous allons faire ce soir sur le thème de la vieillesse. Et justement, par rapport à cette sensibilisation, nous avons pour mission, puisque nous sommes très impliqués dans les soins palliatifs, d'informer et de continuer d'informer, développer les soins palliatifs et surtout de rappeler... La loi Leonetti qui donne les enseignements de bonne pratique des soins palliatifs. Donc ça fait partie de notre rôle, Jalmalve, d'avoir des représentants des usagers qui, dans les établissements, permettent de veiller à la bonne qualité de soins que peuvent avoir les personnes hospitalisées ou dans les cliniques. Donc, ça c'est une dimension importante. Et on y reviendra peut-être. Voilà, donc je laisse la parole à M. Billet.
Merci. Alors, bonsoir à toutes et tous. Ça vous surprendra peut-être ou pas, mais c'est encore plus difficile, je crois, quand on connaît les gens. Et il y a beaucoup de visages que je connais. Donc, je ne suis pas habité tout à fait par le même trac que quand je ne les connais pas, mais ce n'est pas un trac moindre. Croyez-le bien. Mais un bonsoir affectueux à tous. Vieillir et mourir accompagné. Je voudrais d'abord essayer de placer mon propos sous le signe du respect et de l'humilité. Pourquoi ? Il y a tant de souffrances parfois, et vous en êtes les témoins, dans la fin de vie de ceux que l'on aime, de ceux que l'on connaît, de ceux que l'on accompagne. Tant de souffrances qu'il faudrait tellement d'humilité pour avoir le culot d'en parler. Alors, je vais cependant essayer d'en parler. Je ferai donc preuve d'une immodestie terrible, mais vous comprenez dans quel esprit je vais essayer de le faire. Premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, vous avez, vous, Jal Malve, ce soir, relié la vieillesse et la mort dans votre proposition de travail, et vous avez bien fait, je crois, vous avez bien fait parce que, Ania Simon vient de nous le dire, nous relions spontanément tellement les deux, la vieillesse et la mort, que si nous voulons réfléchir à l'un, l'autre vient immédiatement envahir le champ de la réflexion, ou du moins tend à venir envahir le champ de la réflexion. Donc, ce lien entre la vieillesse et la mort, il est pourtant exactement paradoxal, et nous pouvons être de temps en temps tentés de relier les deux, et immédiatement après, tenter de délier les deux. Et les deux approches sont intéressantes, j'y reviendrai à plusieurs reprises dans la soirée. Respect, humilité, j'espère, et puis allez. Le doute. Parce qu'au fond, que savez-vous de ma vieillesse ? Moi-même, que sais-je de ma vieillesse, déjà présente et à venir ? Au moment où je prononce ces mots, me revient un verset d'un psaume de la Torah, prière d'un vieillard, qui nous dit « Je suis une question pour beaucoup », dit le vieillard. Et le vieillard dit « Je suis une question ». Et nous, société contemporaine, comprenons cela comme un problème. Nous traduisons la question en problème. C'est fichu. Ça y est, c'est mal parti notre truc si on commence comme ça. Quand il nous dit « je suis une question », il nous invite à la réflexion sur le mystère de la vie, de la maladie, de l'avancée en âge, de la vieillesse, de la mort, de l'au-delà, auquel nous pouvons répondre les uns et les autres de manière éventuellement fort différente. Invitation au mystère. Des siècles après, Aragon reprend la même intuition en nous disant, je cite, « J'arrive où je suis étranger ». Il nous dit ça à propos de sa propre vieillesse. « J'arrive où je suis étranger ». Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre ou pour le vent être léger. « J'arrive où je suis étranger ». Il regarde sa vieillesse et il la contemple, il y entre comme nous partons en voyage dans un pays dont nous ne connaissons ni la géographie, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire, ni les traditions, ni... Que savez-vous de ma vieillesse ? Moi-même, qui vieillis, je peux vous parler de ma vieillesse déjà là, et encore, nous savons les uns et les autres combien il nous est difficile parfois de parler de nous-mêmes dès que ça nous touche un peu de près, un peu en vrai. Combien il nous est difficile de parler de nous-mêmes, alors à plus forte raison, que savons-nous de notre vieillesse à venir ? Et vous pouvez être le meilleur des gériatres, vous pouvez être le meilleur des gérontologues, des psychologues, des psychogériatres, des gérontopsychiatres, des médecins, des... Tout. Je ne vous dénie là aucune compétence. Au contraire, vous pouvez être le meilleur de tout cela que vous ne savez rien pour autant de ma vieillesse à venir. Et ceci devrait nous rendre définitivement prudents par rapport à la réflexion que nous allons mener sur la vieillesse, l'avancée en âge, jusqu'à la mort. Alors vous dites vieillir et mourir accompagné, et je reçois ces trois termes comme trois propositions de travail que je vais essayer de prendre l'une après l'autre, vieillir, mourir, accompagné. Il se pourrait bien d'ailleurs que travaillant sur la première, vieillir, nous travaillions du même coup sur la seconde, parce que nous pouvons, de façon très sereine, je crois, faire l'hypothèse selon laquelle tout ce que nous avons à faire sur nous-mêmes et dans notre rapport aux autres pour vieillir n'est pas très différent de ce que nous avons à faire pour mourir. Autrement dit, il se pourrait bien que réfléchir à sa vieillesse, à la vieillesse, mais à sa propre vieillesse, soit une bonne manière sans doute d'apprendre à mourir, mais apprend-on à mourir? Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Apprend-on à mourir? Cependant, que philosopher, c'est apprendre à mourir, nous disait Montaigne. Alors, donc, on voit bien qu'il y a dans cet apprentissage une préparation, un chemin, un cheminement, une transformation de soi par rapport à soi-même et de soi ensemble, de soi dans la relation aux autres. D'autant que demain, je serai un peu plus vieux ou je serai mort. J'emprunte cet aphorisme à Michel Philibert, philosophe grenoblois qui a été un des pionniers de la gérontologie en France, qui disait cela de la manière la plus simple mais la plus forte que l'on puisse imaginer. Demain, je serai un peu plus vieux ou je serai mort. Et je peux toujours essayer de me faire croire le contraire. Évidemment, j'aurai au bout du compte rendez-vous avec moi-même. Demain, je serai un peu plus vieux ou je serai mort. Ce qui est à l'œuvre dans l'avancée en âge, dans le grand âge, n'est finalement sans doute pas très différent de ce qui est à l'œuvre dans le chemin parfois très long qui nous conduit à la mort et nous permet, et alors là, tous les mots devraient être utilisés avec une infinie précaution, le chemin qui nous conduit à la mort et nous permet de mourir de manière sereine, relativement sereine, très sereine parfois, admirablement sereine. Nous pourrions les uns et les autres en témoigner pour avoir vu des gens mourir dans une paix intérieure incroyable, croyant, incroyant, agnostique, athée. Et nous avons vu les autres mourir dans des tourments inimaginables. À les comprendre. Dans ce contexte, pourtant, la réflexion se heurte à une société qui, à ce moment précis de son histoire, tente d'écarter la vieillesse, comme elle tente et comme elle parvient pour une part à évacuer la mort. Formidable tentative d'évacuation, mais le paradoxe est total, je crois, parce que il faudrait, dans une volonté de maîtrise illusoire, absurde, mais que nous portons les uns et les autres, plus ou moins chevillés au corps, et contre laquelle il nous faut travailler pour réussir à nous en défaire, dans une espèce d'illusion de maîtrise, de volonté de maîtrise, il nous faut désormais vieillir et rester jeune, et je n'exagère pas, d'accord ? C'est ce que j'ai appelé la tyrannie du bien vieillir, voilà, vieillissez mais vieillissez bien. Autrement dit, au moment où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la chance d'atteindre ensemble, en nombre, des âges auxquels les générations qui nous ont précédés ne pouvaient même pas penser, l'espérance de vie aujourd'hui pour les femmes, 85 ans pour les hommes, 78 ans. Espérance de vie qui a doublé en 100 ans à peu près. Enfin, voilà, espérance de vie incroyable. Au moment où, enfin, et pour la première fois, nous pouvons atteindre des chiffres comme cela, il nous faut admettre que nous aurions le droit de vieillir à condition que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas, que ça ne coûte pas, que... Autrement dit, vieillir à condition de rester jeune. Et tous, moi y compris, De temps en temps, nous tombons dans le panneau, permettez-moi cette expression familière, tous nous tombons dans le panneau, qui nous amène à utiliser le terme vieux, vieille, vieillesse, comme un terme péjoratif, voire comme une insulte. Comme si nous pouvions espérer dans nos vies autre chose que de devenir un jour un peu plus vieux que ce que nous sommes. Comment se fait-il que nous fassions aujourd'hui de cet espoir de vivre encore une quasi-insulte ? Donc, volonté de maîtrise qui nous amène à n'accepter de vieillir à condition de ne pas devenir vieux. Je ne sais plus comment le dire, mais on s'est compris, je crois. Et de la même manière, volonté de maîtrise qui nous amène éventuellement à, comment le dire, à prétendre ou à décider ou à vouloir décider mourir tout de suite pour ne pas avoir à mourir plus tard. Ma manière de le dire peut paraître à peine provocatrice, mais vous voyez, je crois, de quoi il s'agit. L'illusion dans laquelle, pour une part illusion en tout cas, dans laquelle nous sommes, lorsque nous nous persuadons que la maîtrise de la mort, mais que signifient ces termes-là déjà ? Que la maîtrise de la mort, la maîtrise de l'instant, de la manière, constituerait une sorte de maîtrise de la vie. Maîtriser la mort pour maîtriser la vie. Au fond, ce paradoxe-là, il nous faut accepter de l'ouvrir si nous voulons réfléchir plus avant sur cet accompagnement de la vieillesse et cet accompagnement de la fin de vie. Alors, vieillir et mourir sont certainement des processus, des dynamiques, des évolutions, des transformations dans lesquelles nous avons, les uns et les autres, besoin d'être accompagnés, même si nous avons, selon les étapes de notre vie, des difficultés diverses à définir l'accompagnement auquel nous pouvons penser, que nous pouvons espérer, auquel nous pouvons aspirer. Même s'il nous est difficile de définir cet accompagnement pour soi-même et pour autrui, même si ça nous est difficile, nous sentons bien que le pire serait de mourir seul, délaissé. Alors on peut dire abandonné, on peut dire mourir seul, isolé, dans une rupture anticipée des liens. Quelque chose qui nous ferait mourir socialement, mourir à la relation, alors même que l'heure de la mort n'est pas là. Et cette mort anticipée peut survenir très tôt, survient parfois très tôt, et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs que des associations comme celle qui nous accueille ce soir, Jalmalve, s'intéressent à l'accompagnement de ceux qui vieillissent, alors même que leur mort n'est pas encore annoncée. Mais parce que Jalmalve comprend depuis quelques années maintenant que cette vieillesse peut être épreuve d'isolement, alors on se tourne vers l'accompagnement. Donc, je vous propose de commencer par une réflexion un peu plus approfondie sur ce que c'est que vieillir. Alors, prétention de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que vieillir ? Oui, prétention. Alors écoutez, on va essayer d'être modestement prétentieux. Allons-y. D'abord, il nous faut bien admettre que vieillir n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas un chiffre qui va déterminer la vieillesse. Mais si l'âge ne fait rien à l'affaire, comme chantait Brassens, si l'âge ne fait rien à l'affaire, malgré tout, j'ai 66 ans bientôt, je suis beaucoup plus vieux que quand je l'étais moins. C'est indéniable. Et Et quand bien même je ne voudrais pas le voir, de temps en temps, cette évidence me rattrape, nous rattrape, quel que soit notre âge d'ailleurs. Et cette évidence me rattrape à 20 ans, parce qu'à 20 ans, je suis beaucoup plus vieux que quand j'en avais 5, et etc. Donc, mais nous admettrons que ce n'est pas pour autant une question d'âge, et on pourra dire, sans même s'amuser avec les mots, on pourra dire que nous savons bien qu'il y a des vieux incroyablement jeunes et des jeunes déjà très vieux. Bon, alors, qu'est-ce que c'est donc vieillir ? Je crois, premier élément de réponse, vieillir, c'est perdre. Ça ne me fait pas plaisir de commencer comme ça. Pourtant, vieillir, c'est perdre. C'est, par conséquent, renoncer et se laisser travailler par le deuil nécessaire. Je m'explique. Vieillir, c'est perdre. Alors, c'est perdre de la souplesse, de l'acuité sensorielle, hein, visuelle, auditive, olfactive, quelquefois gustative encore pour d'autres, tactile même, ça existe, etc. Vieillir, c'est perdre de la souplesse, de la rapidité, de la mobilité, de la motricité. C'est perdre alors, des millions de neurones, paraît-il, mais j'y connais rien là-dedans, moi. Hein. Bon, mais c'est perdre, évidemment, c'est perdre. Bien. C'est tellement perdre que, dans un commentaire du Talmud, Rabbi Joseph Rosin nous dit « Vieillir, c'est apprendre à perdre. » Apprendre à perdre. Mais qu'est-ce que c'est que cet apprentissage de la perte ? C'est précisément, je crois, se laisser travailler par le deuil. Et là, je fais exprès d'employer l'expression telle qu'elle, se laisser travailler par le deuil, pour tenter de nous inviter, tous, moi y compris, à renoncer à la maîtrise là-dessus. Nous avons procédé ces dernières années à un usage incroyablement abusif de l'expression « travail de deuil » quand Freud lui-même, au moment où il la forgeait, cette expression, voulait parler, je le crois d'après le travail que j'ai pu faire là-dessus, voulait parler, je crois, du travail du deuil. Ce n'est pas moi qui travaille mon deuil, c'est le deuil qui me travaille. Et vous voyez que si je travaille le deuil, alors je peux commencer demain, une catastrophe qui se produit à tel endroit, d'accord, une cellule psychologique a été constituée, les familles vont pouvoir commencer leur travail de deuil, à vous les studios. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les familles vont pouvoir commencer... Bah, attendez, il y en a qui l'ont commencé depuis 15 ans, 20 ans, d'autres qui n'ont pas commencé, qui commenceront peut-être, allez savoir quand, d'autres qui n'y arriveront pas, d'autres qui... Quoi ? Qu'est-ce qu'on maîtrise là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de maîtrise, cette toute puissance, tout le temps, partout, qui va se nicher jusque dans le deuil et le travail du deuil ? Donc, il s'agit bien, non pas de prétendre travailler le deuil. Alors, je vais commencer comme ça, et puis je vais passer par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, et puis vous qui allez m'accompagner, vous allez me guider comme si me guider. Non, non. Le deuil me travaille, et quand le deuil me travaille, il me fait suivre un chemin, si bien décrit par Elisabeth Kubler-Ross en particulier, et d'autres après elle, mais je pense à Marie-Frédérique Baquet, par exemple, mais d'autres. Voilà. Et donc, ce deuil me fait suivre un chemin, chemin de renoncement, effectivement, mais je devrais dire, pour être fidèle à la pensée freudienne, je crois, chemin de remaniement. Pas seulement de renoncement. Il y a perte. Et pour une part, la perte peut être compensée, mais la compensation, ce n'est pas de la récupération. Je deviens sourd. La récupération, ce serait demain, je serai plus sourd. Tandis que la compensation, c'est demain, grâce à une prothèse auditive intelligemment fabriquée par des scientifiques de haut niveau, des médecins formidables, etc. Grâce à ça, je vais entendre quand même. Ouais, mais j'ai une prothèse. D'accord ? Et je n'ai pas récupéré. Mais le processus de compensation, c'était pas tant. et je remercie tous ceux qui m'aident à compenser, bien sûr. Hein ? Tenez, voilà un beau processus de compensation, une prothèse parmi d'autres, bref. Perdre et se laisser travailler par le deuil. Cet apprentissage de la perte, il exige que nous acceptions d'opérer en nous-mêmes des remaniements. Alors, Freud définissait le travail du deuil comme étant le remaniement des investissements affectifs, c'est-à-dire non pas « avant je l'aimais, maintenant j'ai fait mon deuil et je ne l'aime plus », c'est absurde ce truc-là, évidemment, mais c'est « avant je l'aimais d'une certaine manière, le deuil opérant, je l'aime aujourd'hui d'une autre manière, qui peut-être bien ne m'empêche plus de m'ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres relations, au monde, etc. » Voilà. Et par rapport à tout ce que, vieillissant, nous allons perdre, évidemment, ce travail de remaniement est nécessaire. Remaniement, renoncement, et vous voyez évidemment déjà le parallèle avec le processus qui m'amène à la mort. Je ne peux mourir demain sereinement que si progressivement je renonce. J'apprends à perdre un certain nombre de choses. Tout ce que, comme disait mon grand-père, mon pauvre gars, t'emmènera pas dans ton cercueil. Tout ça, plus je m'en libérerai tôt, et mieux je finirai ma vie, évidemment. Mais que c'est difficile de s'en persuader, bien sûr. Bien. Donc, apprendre, perdre, apprendre à perdre. Alors, j'ai fait déjà plusieurs références à l'Ancien Testament. Je poursuis exprès ces références parce que, non pas pour une manie, pour satisfaire à une manie de références religieuses, mais parce que ce texte, il est incroyablement fondateur de ce que nous sommes, de notre culture. Et je vous invite à lire ou à relire, par exemple, une trajectoire, l'aventure extraordinaire de la perte racontée dans le livre de Job, lorsqu'il nous dit « Et ce que je redoute m'arrive. » Et ce que je redoute m'arrive. Et regardez les personnes âgées auxquelles que vous avez à l'idée, auxquelles vous pensez, hein, que vous accompagnez, que vous... « Et ce que je redoute m'arrive. » Elles ont peur de perdre « Et ce que je redoute m'arrive. » Évidemment, on y va, bien sûr. D'où la nécessité de cet accompagnement, d'où le trésor que peut constituer l'accompagnement. Alors, j'emprunte à mon ami Didier Martz une question fondamentale. Que reste-t-il quand on a tout perdu ? Parce que nous voyons bien des gens dont nous pourrions dire pour un peu qu'est-ce qui leur reste, à part le souffle. Et encore quelquefois, il est assisté, le souffle en question. Que reste-t-il quand on a tout perdu ? Et suggestion de réponse, suggestion, parce que nous pouvons répondre à cette question différemment, mais suggestion de réponse, l'essentiel, c'est être. Ce qui reste quand on a tout perdu, l'être. C'est-à-dire la fragilité, la vulnérabilité. Tout l'inverse des tambours et des trompettes avec lesquels, qui nous précèdent et avec lesquels nous avançons dans la vie le plus possible. Alors on pourra me dire, mais vieillir c'est apprendre à perdre, c'est perdre, apprendre à perdre. Oui, mais vieillir c'est aussi gagner. Indéniablement, oui, bien sûr. Mais pas d'angélisme là-dessus. Ce qui se gagne n'est pas du même ordre, évidemment, que ce qui se perd. Alors ce qui se gagne est de l'ordre de l'expérience. Oui, mais qu'est-ce que vous avez à faire de l'expérience de l'autre ? De l'autre très âgé, très malade, très handicapé. Alors vous, pardonnez-moi, c'est sans doute justement pas à vous qu'il faudrait dire ça, autrement vous ne seriez pas là. Mais Mais globalement, socialement, sociétalement, qu'est-ce que nous faisons de l'expérience des vieux ? À quoi nous sert leur expérience ? Nous n'allons même pas la chercher, même pas la recueillir. Et lorsqu'ils veulent nous la donner, nous avons une propension extraordinaire à la mépriser, franchement, ou à la recueillir pour la mettre au musée. Alors il est peut-être mieux qu'elle soit au musée que perdue. Mais, bref. À moins que ce qui se gagne soit de l'expérience, mais de l'expérience au sens où quelques vieillards contemporains pourraient nous en parler. Je pense à Albert Jacquard d'abord, avec un profond sentiment de révolte devant les injustices sociales. Et vous voyez Jacquard qui s'engage pour le logement des plus défavorisés. Attendez, lui, qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Voilà. Mais il a gagné qu'il était devenu capable de se battre pour les autres. Ce n'est pas d'aujourd'hui en plus. Mais voilà. Alors un autre qui vient de nous quitter, évidemment. Évidemment. Indignez-vous, nous disait Stéphane Hessel. Engagez-vous, disait-il tout de suite après, parce que quand il nous a dit indignez-vous, évidemment, ce n'était pas suffisant. Et on l'a tenté de ridiculiser, vous rendez compte ? Un vieux qui nous dit de s'indigner, bah voyons, ah ben ça y est, je suis indigné, et maintenant ? Allons, allons, allons. Bon, quelle honte, et que je suis heureux de lui rendre hommage. Voilà, donc, indignez-vous. Et si nous regardions la vieillesse comme ce moment de notre vie où enfin nous pouvons développer cette faculté d'indignation, avec tout ce qu'elle comporte de révolte, d'engagement, même plus pour soi, pour autrui, et par conséquent, de gain de liberté. Et si la vieillesse devenait l'âge de la liberté, enfin. Enfin. Enfin libre. Dégager toute obligation de performance. Enfin libre. Vieillir, c'est perdre, apprendre à perdre, mais grâce à ces pertes, c'est peut-être bien devenir libre. Enfin libre. Libre au point de pouvoir quitter ce monde, évidemment. Ensuite, je l'ai laissé entendre déjà, je voudrais maintenant prendre le temps de développer l'idée que vieillir et mourir par conséquent, c'est remanier son rapport au temps, son rapport au monde, son rapport aux autres et son rapport à soi-même. Alors allons-y, je prends ces quatre termes les uns derrière les autres. Vieillir, c'est remanier son rapport au temps. Alors, ça peut paraître presque évident de le dire comme ça, mais nous n'avons pas le même rapport au temps à 5 ans, 10 ans, 20, 40, 60, 80, mais j'aurais pu prendre des âges intermédiaires à tout cela, évidemment. Eh oui. Alors, à quel âge est-on vieux ? Et il n'y a pas d'âge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourtant, vient un moment où, mais attention, à condition de ne pas prendre le terme « vieux » au sens péjoratif, on est bien d'accord, hein, mais au sens où il a pu être anobli par Jacques Brel, par exemple, hein, à condition de le prendre dans ce sens-là. Vient un moment où s'opère une sorte de bascule et où je deviens capable de regarder non pas seulement le temps écoulé, mais le temps qui me reste. Et là, voilà la sagesse de la vieillesse. René Scherrer, fondateur de l'association Jalmalve, se trouve un jour dans la situation suivante. Il est sous l'œil de la caméra de Bernard Martineau, qui tourne pour la télévision française un film qui a été intitulé à l'époque « Voyage au bout de la vie ». René Scherrer rentre dans la chambre d'une malade qui s'appelait, je vous donne son nom parce que c'est une manière de lui rendre hommage à elle aussi, qui s'appelait Madame Noël de Julie. Elle était infirmière de son métier et elle avait développé un méchant cancer du sein avec métastases osseuses, etc., etc. La nuit qui précède la scène, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Pour ne pas déranger ses collègues, elle ne les a pas appelés. rentrant des toilettes, elle fait une chute, fracture du col du fémur. Scherrer vient la voir, il s'assied sur le lit, ne le répétez pas, parce que il paraît que c'est pas bien du tout de faire ça, hein, d'accord ? Donc il s'assied sur le lit, et alors tous ceux qui connaissent René Scherrer, évidemment connaissent ses yeux, son regard, un regard incroyable. Voilà. Donc il envisage, laissez retentir cette expression, il envisage Noël de Julie, hein, plonge ses yeux dans les siens et lui dit ceci. Nous avons beaucoup réfléchi avec le chirurgien et l'anesthésiste pour savoir si on devait vous opérer ou ne pas vous opérer. Et puis on a pensé, il s'arrête, il se resitue en face d'elle, les yeux dans les yeux, et cette fois les mains dans les mains, et il lui dit, j'ai pensé, d'accord, voilà, il rentre à nouveau en relation avec elle, dans une intensité de relation incroyable, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas vous opérer, parce que vous risquez de vous réveiller dans de mauvaises conditions. Pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Être capable d'utiliser cette formule-là, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Ben voilà, remanier son rapport au temps, c'est devenir progressivement capable, pour soi-même, dans la relation aux autres, d'utiliser cette formule-là, en couple, avec des enfants, dans les relations familiales, dans des relations amicales, dans des relations, celles qui vous conviennent, d'utiliser cette formule-là pour le temps qu'il nous... d'investir cette formule-là pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Alors qu'est-ce que nous aurions de mieux à faire ? Et il y a fort à croire qu'un certain nombre de fois, on éteindrait la télévision, ou au moins on changerait de chaîne, que peut-être on irait au cinéma, au théâtre, parce que le spectacle vivant, c'est quand même autre chose, au concert, ou qu'on irait voir des amis, ou qu'on, je ne sais quoi, ou qu'on irait marcher au bord de la mer, dans la forêt, là où vous avez envie d'aller marcher, ou que peut-être on ouvrirait une bouteille de vin. À boire avec modération, peut-être, et encore, je ne sais pas, dans ces cas-là. Bref. Vieillir, c'est remanier son rapport au temps. Et ce remaniement-là ne peut pas s'opérer dans le bruit et la fureur de la vie sociétale, mais ne peut s'opérer que dans une nécessaire solitude. Et il nous faut là absolument cesser de confondre l'isolement et la solitude. Redoutable isolement, nécessaire solitude. Solitude où je trouve une douceur secrète, disait La Fontaine. Mais si vous préférez Moustaki, pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, etc., etc. Et oui, très beau texte qui nous accompagne. Bien. Alors, rapport au temps. Je vous disais, deuxième élément, vieillir, c'est remanier son rapport au monde. Alors, l'expression peut paraître un petit peu abstraite. Qu'est-ce que c'est que le rapport au monde ? Eh bien, c'est très concrètement le monde qui nous entoure. Et je vais prendre deux ou trois exemples et passer relativement vite ensuite. Le monde qui nous entoure, c'est, nous savons bien, l'habitation, le logement, le domus, le domicile. Voilà. Vieillir, c'est remanier le rapport que l'on a avec cet espace bâti dans lequel nous vivons. Et nous avons les uns et les autres différentes manières de le remanier. Les uns avaient une maison avec un jardin. Voyant venir l'âge, ils disent « Moi, le jardin, je m'en fous. Je préférerais maintenant aller au centre-ville, prendre un appart et ne plus avoir à pousser la tondeuse. » D'autres, au contraire, se disent qu'un carré de pelouse, quand même, ça doit être formidable et préfèrent, à ce moment où l'autre y renonce, aller « Et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas ? Chacun de nous peut bien vivre ça comme il l'entend. Mais nous voyons comme cela un remaniement du rapport à l'habitation qui petit à petit s'opère. Alors les uns quittent une partie de leur domicile. Il y a des pièces où on ne va plus. Alors, parce qu'elles sont à l'étage et qu'on a peur de tomber, d'accord, mais parce que on n'a plus rien à y faire. Alors, on a gardé la grande maison, elle est payée, c'est pas... elles sont... Petit à petit, il y a des pièces qui sont désinvesties et d'autres surinvesties, au contraire. Hein, et l'espace se réduit. Hein, on voit ça souvent. Bien. Rapport à la maison. Allez, rapport à la voiture. Ah là là. Fichu bagnole, n'est-ce pas ? Mais vieillissant, nous n'achetons plus les voitures pour les mêmes raisons qu'avant. Alors c'est toujours pour se déplacer, mais... C'est plus tout à fait. On n'attend plus la même chose. On ne regarde plus la voiture de la même manière. Et on ne la manie pas non plus de la même manière. Et voilà. En plus, ils m'énervent avec leur rond-point. Enfin, ces trucs. Hein ? Bon. Donc, le rapport à la voiture, il évolue. Il évolue tellement que petit à petit, on voit les personnes vieillissant se tourner davantage vers. De l'entraide vers les transports en commun, là où c'est possible en tout cas. Hein. Et la situation des zones rurales est de ce point de vue quelquefois dramatique. Hein, dramatique. Mais on voit qu'il y a de l'évolution possible de ce côté-là. Vieillir, c'est remanier son rapport au monde. Alors, la maison, la voiture, mais prenez tous les exemples que vous voudrez. Je n'ai même pas parlé du rapport au travail, et pourtant. Hein. L'occupation qui remplace le travail, c'est pas la même chose, l'occupation et le travail, etc. Bien, la maison, l'habitation globalement, la voiture, le travail, mais les objets, et vous voyez des personnes qui deviennent, qui tenaient à certains objets, puis qui deviennent capables de s'en détacher, qui un jour dit à son fils, tu le veux, tiens, je te le donne. Ah bon ? Ben oui, puis ça te fait plaisir, emporte-le. Voilà. Et pourquoi pas ? Parce que il y a du détachement qui devient possible. À l'inverse, un attachement renforcé qui peut se construire sur certains objets qui se mettent à compter beaucoup plus qu'ils ne comptaient auparavant. Tout peut se rejouer. Bref, nous voyons les uns et les autres comment tout cela peut se jouer. Vieillir, c'est remanier son rapport au temps, au monde. Vieillir, c'est remanier son rapport aux autres. Alors, on va commencer par regarder ce rapport aux autres au plus près de soi. Il est fréquent que l'on vieillisse en couple, mais ce n'est pas sûr. Et on a le droit de vieillir seul. Ce n'est pas un défaut. Dans une société qui supporte mal, qui juge mal ceux qui vieillissent seuls, ceux qui vivent seuls et ceux qui vieillissent seuls. Regardez comment aujourd'hui encore, on parle d'une vieille fille, comment aujourd'hui, etc. Hein. Donc, cette espèce de regard dépréciateur sur ces situations de solitude, bien. Donc, vieillir, c'est remanier son rapport aux autres au plus près de soi. Alors, René Scherrer, tout à l'heure, nous disait, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, évidemment, cette question, c'est d'abord en couple qu'il nous faut la poser, bien sûr. Forcément, c'est d'abord en couple. Et il n'est pour cela ni trop tôt, ni trop tard. C'est le bon moment. Tout simplement le bon moment pour se poser en couple cette question, quelle que soit la manière dont on a déjà malmené ce couple, dont on l'a déjà fait souffrir peut-être, ou au contraire, dont on a su le cultiver, le soigner, l'embellir, le faire vivre, etc. C'est vrai pour le couple. Mais c'est vrai pour les enfants, et on remanie son rapport à ses propres enfants au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. J'ai été très surpris il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, une personne m'a dit, j'ai vu ton fils, il a pris un de ses coups de vieux. Vous vous rendez compte, si mon fils a pris un coup de vieux ? Alors, c'était très gentil de ne pas me faire remarquer que moi, j'avais pris deux coups de vieux. Mais du même coup, mon rapport à mes enfants se trouve évidemment profondément modifié. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Modifié, remis en chantier, remis au travail. Et c'est vrai que mon fils a pris un coup de vieux. Hein. Et je le sais. Je l'avais vu moi-même. Mais je n'avais pas osé me le dire. Bref. Rapport à nos propres enfants, mais vieillissant, nous avons éventuellement encore d'autres membres de notre famille, des frères et sœurs, des parents, eux-mêmes très âgés peut-être, ou etc., etc. Et puis nous avons perdu des parents, perdu des frères et sœurs, perdu des enfants peut-être, perdu. Et tout cela implique, exige des remaniements douloureux, heureux, aussi heureux, pourquoi pas, hein, mais implique des remaniements nécessaires. Vieillir, c'est remanier son rapport aux autres, et puis élargissons le cercle, c'est les autres voisinages, relations, les amis, le cercle de relations, mais c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement politique, militant, syndical, je ne sais, mais c'est l'engagement, tout simplement, remanier son rapport aux autres, avec une prise de conscience qui petit à petit se transforme de la place que l'on occupe dans ce rapport aux autres. Mais ce rapport aux autres, il est indispensable pour que s'opère également le remaniement du rapport à soi-même. Pourquoi ? Parce que, Prévert, c'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît. Eh oui. Or, ce rapport à soi-même, il commence, ce remaniement du rapport à soi-même commence vraisemblablement par un remaniement nécessaire de l'image de soi. Un jour, un de mes petits-enfants, il avait 5 ans, me dit d'un ton solennel et grave, « Grand-père, tu sais, ça se voit que t'es vieux. » Alors, à quoi vois-tu ça, mon chéri ? Ben, d'abord, tu as plein de plis sur la figure. Normal, moi, j'ai méprisé les crèmes anti-âge. Alors, je les ai même dénoncées. Donc, donc tu as plein de plis sur la figure. Bon. Et puis, tu n'as que des habits de vieux. Qu'est-ce que c'est qu'un habit de vieux ? Ben, tu ne te rends même pas compte que tu n'as que des habits bleus. Il me dit. Eh ben voilà. Je suis encore tombé dans le panneau. Et oui, le même jour, figurez-vous, ça c'était au moment du déjeuner, le même jour je vais à la gare acheter un billet de train. Et la guichetière, je lui dis, je voudrais un aller-retour. Et la guichetière me dit, vous avez une réduction ? Voilà. Eh bien, je crois qu'on peut faire l'hypothèse que la guichetière et mon petit-fils, qui pourtant ne se connaissent pas, m'envoie ce jour-là exactement le même message, me disent exactement la même chose, mais c'est lui, évidemment, qui me l'a dit de la plus belle des manières. Il m'a dit « ça se voit que t'es vieux ». Et la guichetière m'a dit également « mon vieux, ça se voit que t'es vieux ». Alors demain, je peux me faire teindre les cheveux. Et la guichetière poussera le coude de sa voisine en disant « t'as vu le vieux, il s'est fait teindre ». Évidemment. Évidemment. Et mon petit-fils n'a pas fini de se payer ma tête, en plus, vous imaginez. Bref, donc, vieillir, c'est bien remanier l'image que j'ai de moi, qui est ce remaniement de l'image que j'ai de moi, qui est en fait la porte ouverte au remaniement du rapport à soi-même. Ce rapport à soi-même, c'est ce que Pierre Sansot aurait appelé un remaniement identitaire fondamental. Pierre Sansot, qui était un philosophe, sociologue, que peut-être certains parmi vous ont eu l'occasion de lire, par exemple, dans un très bel ouvrage intitulé « Les gens de peu », ou bien un autre intitulé « Du bon usage de la lenteur », ou bien, etc. Voilà, hein. Pierre Sansot, grenoblois, qui est décédé il y a une petite dizaine d'années maintenant, et qui nous manque parce qu'il avait une pensée sociologique que je trouvais, moi, très belle, il avait une formidable définition de l'identité. Je cite « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. » L'image que j'ai de moi, forgé dans le rapport aux autres. Grand-père, ça se voit que t'es vieux, ça y est. C'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît, d'accord, hein. Forgé dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. Et la question identitaire, la vraie, n'est pas tellement « qui suis-je ?» Et je vais pouvoir regarder mon nombril qui se dilate pendant que je me pose et me repose cette question « qui suis-je ? D'où viens-je ? Où j'erre ? Etc. » et tout ça. Non, 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 non. La question identitaire, la vraie, elle est « qu'attendez-vous de moi ?» Toi qui me regardes, qu'attends-tu de moi ? C'est ça la question identitaire. Et cette question-là nous est renvoyée à chacun. Qu'attendons-nous de celui qui vieillit au point de s'approcher de la mort ? Qu'attendons-nous de celui qui se prépare à mourir ? Qu'attendons-nous de ce jeune homme polyhandicapé qu'on laisse croupir dans un établissement dont personne ne pousse jamais la porte que ses parents ? Qu'attendons-nous de l'autre étranger, pauvre, rome, que nous avons tellement maltraité il y a quelques mois encore, etc. Qu'attendons-nous de l'autre ? Et si nous n'en attendons plus rien, alors on ne peut pas être surpris, évidemment, de voir se pointer la promotion de réponses et de solutions expéditives, bien sûr. Si nous n'en attendons plus rien. Il me semble que, sur cette base, à condition que vous attendiez quelque chose de moi, je peux alors regarder ma vieillesse déjà présente et à venir de deux manières exactement contradictoires et complémentaires. D'abord, je peux la regarder, cette vieillesse, comme cette période de ma vie qui me rapproche de la mort. Et c'est incontestable. Ma vieillesse me rapproche de ma mort. Que je le veuille ou non, c'est incontestable. Mais justement, je peux regarder à l'inverse ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort et que par conséquent, je peux investir pleinement à condition d'exister dans le regard de l'autre, à condition que vous attendiez quelque chose de moi. Et la clé de l'accompagnement, elle est pour moi dans cette attente que nous serions, que nous devrions être, que nous devenons peut-être capables de formuler vis-à-vis d'autrui. Curieusement, nous sommes dans un pays, dans une société qui a remarquablement, depuis l'après-guerre, remarquablement développé une capacité à répondre aux attentes des autres, c'est-à-dire à dire à une personne en difficulté « De quoi as-tu besoin ?» et à y répondre. Et ce faisant, nous avons presque totalement perdu notre capacité, collective au moins, à inverser cette dynamique du besoin et à dire « Moi, j'ai besoin de toi. » Nous, société, avons besoin de toi et le corps social s'appauvrirait si tu le quittais prématurément. Difficile. Et ce n'est rien d'autre que ce que nous apprennent ATD Carmonde ou Emmaüs, d'inverser la dynamique du besoin. Oui, on va leur donner un toit, un logement, de la nourriture, de l'argent. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur demande ? Où est la réciprocité ? D'accord ? C'est sur cette base, je crois, que l'on peut essayer de penser l'accompagnement de ceux qui vieillissent et penser cet accompagnement jusqu'au bout de la vie. Qu'attends-tu de moi ? Et si tu n'attends rien de moi, alors laisse donc les autres m'accompagner. Ils le feront beaucoup mieux. Mais je pourrais, si j'avais le culot, aller plus loin et dire « Si tu n'attends rien de moi, ne viens pas non plus me soigner. » Parce qu'alors tu n'auras vis-à-vis de moi qu'un soin technique déshumanisé, déshumanisant. Déshumanisant pour moi qui le reçois, déshumanisant pour toi qui me le donne, ce soin-là. Et tu souffriras autant que tu me feras souffrir. C'est pas intéressant. Voilà. Donc, il me semble que Sur cette base, se noue différemment ce que je vais appeler la problématique de l'autonomie et de la dépendance. Sur cette base, des attentes réciproques. Je vais essayer de dire ça de façon assez synthétique, mais au fond, depuis, la fin des années 80, vous avez remarqué comme moi que nous avons, à propos des personnes âgées, pris l'habitude d'utiliser un certain langage un peu technique. On parle d'elles en disant qu'elles deviennent dépendantes. Autrefois, on disait il y a les valides et les invalides, et puis on était embêté avec une partie d'entre elles, on disait il y a les semi-valides. Alors on ne savait pas s'ils étaient semi-valides dans le sens de la hauteur ou... Voilà. Mais c'était pratique, ça permettait de les ranger par étage dans les maisons de retraite. En bas, vous mettiez les valides parce que ceux-là, ils sortent. À l'étage supérieur, les invalides parce que de toute façon, ils ne sortiront pas. Puis au milieu, vous mettiez les semi-valides parce que avec des personnels bien intentionnés, on arrivera à les sortir une fois de temps en temps. Bien. Donc, on demandait aux médecins de certifier qu'ils étaient valides, pas valides, machin. D'accord ? Heureusement, on a quitté ça. Et on est entré dans quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus élaboré, qui tente de tenir compte de critères médicaux, de critères médico-sociaux. Hein, et on a fait entrer dans l'analyse de la situation de la personne une multitude de critères plus subtils, plus futés, plus... Bon. Même si l'erreur qu'on a commise, sans doute, c'est d'organiser tout ça à l'intérieur d'une grille. C'est fichu, déjà, quand ça s'appelle une grille. La grille agir n'est pas moins enfermante que la grille de l'hôpital psychiatrique. Simplement, elle est isonormée, c'est tout. Pas l'autre, mais ça ne change pas grand-chose. Bref. N'empêche que ce terme de dépendance que nous avons retenu et que nous utilisons à tort et à travers sans doute, ce terme de dépendance nous a permis de sortir d'une classification trop primaire, valide, invalide. D'accord ? Donc ça nous a fait faire un pas en avant indéniablement. Hein ? Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Mais on va jeter l'eau du bain quand même, j'espère, un de ces jours. Bien. Donc... Ce terme de dépendance nous a permis d'évoluer. Néanmoins, dans l'usage que nous en faisons, vous voyez bien également que il est devenu le contraire de l'autonomie. Et c'est un drame. Pourquoi ? Parce que je peux être demain parfaitement dépendant et parfaitement autonome et que les deux choses ne s'opposent pas. Exemple, accident de voiture, section de la moelle épinière au niveau des cervicales, tétraplégie totale. Je me retrouve, dans le meilleur des cas, dans un fauteuil électrique, peut-être même pas dans un fauteuil électrique, mais enfin, dans le meilleur des cas, dans un fauteuil électrique, que je vais pouvoir piloter plus ou moins avec le menton, ça marche. Je peux me déplacer. D'accord ? Bien. N'empêche que je dépends de mon entourage pour tous les actes de la vie quotidienne. Tous. Je ne peux même pas me moucher, me gratter. Alors, à plus forte raison, la toilette, le lever, le coucher, s'habiller, se laver. Tout. D'accord ? Tout. Je suis dépendant de mon entourage pour tout. Oui, mais parfaitement autonome et capable de décider de ma vie s'agissant de moi-même. Voilà. Or, il nous faudrait donc arrêter de prendre... La dépendance comme le contraire de l'autonomie, la dépendance, c'est simplement le contraire de l'indépendance. Seulement, ce petit mécanisme sémantique qui nous conduit à prendre la dépendance comme le contraire de l'autonomie, il a deux avantages. Le premier, c'est qu'il nous permet, avec une relative élégance, de spolier l'autre de son autonomie au motif de prendre en charge sa dépendance. Voilà. Si vous voulez qu'on vous aide, il va falloir renoncer à être autonome. C'est effrayant, ce truc-là. D'accord ? Et puis, le deuxième, qui nous concerne tous comme citoyens, c'est que nous disons l'autre dépendant au moment où nous brisons l'inter-dépendance. Ce qui nous fait homme, c'est l'interdépendance. C'est vrai de la naissance à la mort. Nous sommes interdépendants. Et lorsque vous dites de moi que je suis devenu dépendant, vous vous retirez de l'interdépendance. Terminé. Qu'attendez-vous de moi ? Rien. La réponse est inclue dans le terme même dépendant. Non pas dépendant, interdépendant. Et si nous réintroduisons l'inter, alors nous retrouvons l'obligation de répondre à la question dépendant réciproquement de qui ? Et là, vous avez toute la problématique de l'accompagnement, de l'entourage, de ce qu'il est convenu d'appeler les aidants, etc. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais pourtant, hein, toute cette problématique-là qui, d'un seul coup, évidemment, ne peut plus être évitée. Seulement, si nous ne l'évitons pas, cette problématique-là, alors il nous faut prendre en compte la situation particulière des aidants, qui la plupart du temps, d'ailleurs, sont encore des aidantes, mais qu'on masculinise, parce qu'autrement, ça se verrait. Hein ? Ben oui, bien sûr. C'est... Alors, des aidants que l'on dit naturels, ben oui, parce que comme c'est bientôt ce sera bio, vous verrez, hein, des aidants naturels, parce que autrement il faudrait admettre que même chez les femmes, ce n'est peut-être pas génétique de s'occuper des vieux. Ou, enfin, vous voyez, je le dis, j'essaie de le dire en le tournant un peu en dérision, mais au-delà de la dérision, bien sûr, il y a des questions de société fondamentales derrière ça. Alors, si c'est vrai que dans une relation d'interdépendance, vous voulez m'accompagner, de quoi s'agit-il ? Cet accompagnement, je voudrais prendre le temps de cultiver un petit peu ce terme, ce si beau terme d'accompagnement. D'abord, cet accompagnement, c'est un certain regard, un regard bienveillant. Je n'ai pas le temps là non plus de tout développer. Je n'ai pas dit bien traitant. Mais je veux bien qu'il soit bien traitant. Je préfère qu'il soit bien traitant que maltraitant. Mais allez, bienveillant. Parce que si vous ne me voulez pas du bien, ben encore une fois, allez, passez. Et laissez donc quelqu'un d'autre à votre place. D'accord ? Ce regard, il est bienveillant, accueillant. Il tente de ne pas réduire l'autre aux attributs négatifs qui sont les siens. Et vous savez comment nous avons l'extraordinaire faculté de réduire l'autre au manque qui les caractérise. Alors, on parle de l'autre comme d'un handicapé, comme d'un dépendant, comme d'un Alzheimer, comme d'un... Enfin, quoi ? C'est plus des personnes ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Bref, vous voyez bien ça. Donc, ce regard, il est bienveillant. Ce regard, il reconnaît à l'autre une pleine humanité inconditionnelle. Une pleine humanité inconditionnelle, simplement parce qu'il est mon semblable. Mais comme nous avons du mal à nous reconnaître semblables de l'autre, permettez-moi une anecdote personnelle qui me brasse toujours quand je la cite, mais... J'ai un frère un peu plus jeune que moi, handicapé, je suis content de vous en parler, parce que s'il était là, ben croyez-moi, il serait heureux que je parle de lui. Donc, je le fais volontiers. Pendant 50 ans, j'ai toujours entendu dire que François me ressemblait. Soit. Ça ne m'a jamais posé de problème. Le jour de mon anniversaire de mes 50 ans, il y a donc plus de 15 ans maintenant, le jour de mes 50 ans, j'avais organisé une fête. Évidemment, François était là. Et une de mes amies me dit « C'est incroyable ce que tu ressembles à François. » Je n'y avais jamais pensé. Jamais. Je n'avais jamais pensé les choses dans cet ordre-là. Que François me ressemble, normal, je suis un modèle. Mais que je ressemble à François, alors là, je n'avais... Et me disant cela, c'est incroyable ce qu'elle m'a déstabilisé et rendu service. Et obligé à remanier, etc. D'accord ? Voilà. Vous voyez, cette difficulté que nous avons à reconnaître, même quand nous le déclarons, à reconnaître à l'autre sa pleine humanité. Parce qu'ils sont nos frères en humanité. Point. Alors, on pourra dire, ça fait curer ce genre de discours. Je m'en fiche, c'est au fronton de la République. D'accord ? Fraternité, il y a écrit. Donc, tant que c'est au fronton de la République, on n'a pas à lâcher là-dessus. Parce qu'ils sont, à cause de ce principe de fraternité, à cause de cette valeur républicaine de fraternité, ils sont nos frères, et nous leur reconnaissons pleine humanité inconditionnelle. Jean-Paul Sartre. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, bon, Sartre, existentialiste athée, si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Point. Terminé. Si nous lâchions cela, et ce peut être tentant, quand nous entendons certains philosophes ou pseudo-philosophes américains nous suggérer aujourd'hui de distinguer les êtres humains et les personnes humaines. Nous sommes tous des êtres humains, hein ? D'accord. Mais il y en a parmi nous qui sont déjà plus des personnes. Alors si c'est plus des personnes, les personnes, il ne faut pas y toucher, d'accord, vous et moi, hein, enfin moi surtout, d'accord. Mais les autres, qui ne sont déjà plus des personnes, par exemple parce qu'ils sont polyhandicapés, parce qu'ils sont Alzheimer, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont en phase terminale de cancer, parce qu'ils sont cela. Bon, d'accord, c'est des êtres humains, on ne va pas les traiter n'importe comment. Mais, est-ce que vraiment, dans un pays qui est en déficit, on va consacrer des sommes considérables à... Attendez, c'est même plus des personnes. Ils ne sont plus en relation. Oui, c'est... Donc, une injection et... Voilà. Si nous lâchons sur ce principe-là, c'est ça qui nous attend. Alors, cet accompagnement, de quoi est-il fait ? Il est fait d'une certaine proximité. Je fais exprès d'employer le mot proximité parce que tout le monde partout parle de la bonne distance. Eh bien, allez, je voudrais qu'on se mette au travail sur la nécessaire proximité. Parce que la distance, ça va. Hein. Quand c'est moi qui suis malade, j'aime bien que les soignants soient proches. Parce que des soignants distants, croyez-moi, j'en connais. Hein. Bon. Alors, des accompagnateurs distants, il y en a, mais des accompagnateurs proches, des accompagnants suffisamment proches. Voilà. Travailler cette dimension-là, une certaine proximité, ce qui exige un certain partage. Le mot accompagnement lui-même, il est fait, il est composé d'une racine latine, d'un cum, qui veut dire avec, et de panem, le pain. C'est donc le pain qu'on partage, et ce pain, il est matériel et symbolique, évidemment. C'est un pain que l'on mange ensemble, bien sûr, mais si vous ne pouvez pas prendre un repas avec moi, et nous connaissons des lieux, y compris dans des lieux d'accueil spécialisés pour les personnes âgées dépendantes, où il n'est pas pensable que le personnel partage un repas. Ce serait considéré comme une faute. Vous vous rendez compte ? Mais ne parlez pas d'accompagnement, c'est effrayant. Hein ? On ne peut même pas manger ensemble, enfin. Qu'est-ce qui reste si on ne mange pas ensemble ? Si on ne partage pas ça ? Et au-delà de ce partage réel, partage symbolique, quand on partage, c'est de la culture, c'est une histoire, c'est une langue, c'est de l'affection, bien sûr, c'est des sentiments, c'est de la parole, c'est du silence, c'est de la tendresse, c'est des gestes, c'est de l'amour, finalement, qu'on le dise comme on voudra. Proximité. L'accompagnement, c'est un certain rythme. Si vous m'accompagnez, vous ne courez pas devant moi, mais vous ne traînez pas derrière. Seulement, vous découvrez l'art de suivre mon pas, le mien. Alors, il se peut que le mien s'accorde au vôtre. Autrement, débrouillez-vous, accordez le vôtre au mien. C'est comme ça. Autrement, ne prétendez pas m'accompagner. Vous voyez, cet accompagnement, c'est un certain rythme, ne pas presser, ne pas ralentir. Mais ça demande ça, une disponibilité à l'autre, une attention, une aptitude au soutien, etc. C'est du même coup une certaine posture, une posture physique et relationnelle qui détermine une certaine manière d'être et qui ne dépossède pas du coup l'autre de sa capacité à décider pour soi-même. Autonomie, on y revient. Il faudrait parler de la fonction du rituel dans l'accompagnement, parce que nous vivons dans une société qui, petit à petit, tend à se déritualiser, notamment, évidemment, j'ai en tête, en disant cela, les rituels mortuaires, et à remplacer les rituels par l'apparence du rituel dénué de sens, c'est-à-dire remplacer le rituel par le spectacle. Le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est l'extraordinaire spectacle donné à voir à l'occasion de la mort de Michael Jackson. On n'a pas vu de rituel, mais on a vu, alors, des écrans de télévision bourrés de spectacles, d'images, de constructions incroyables, et aucun rituel. Or, le rituel, il relie, c'est l'origine latine du mot religion, religere, relier. Le rituel, il relie les hommes en proposant du sens à un événement insupportable. Et la mort, événement insupportable s'il en est, le rituel est là pour proposer à la communauté des hommes un sens possible. Mais dans une société qui refuse qu'un sens soit mis en exergue, et on peut le comprendre, évidemment, dans une société qui refuse cette approche-là, quel sens peut-on proposer? Alors on propose une apparence de sens, mais un sens creux, un sens rien. Alors on nous dit que la mort, c'est un départ. Oui, pour aller où? D'accord? Que la mort, c'est un voyage. Oui, pour aller où? Que la mort, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit ça? Rien. Ça a l'apparence du rituel, mais c'est normal dans une société du café décaféiné, où nous avons appris à boire du café sans café. Nous avons des rituels déritualisés. Des maîtres de cérémonie qui ne sont que... qui le font de leur mieux, en plus, je ne les mets pas en procès, hein, mais des maîtres de cérémonie qui ont développé l'art et la manière de dire, de parler pour ne rien dire. C'est dur, hein? Mais je pense que vous comprenez ce que je veux. Déritualisation. Accompagner dans cette déritualisation devient difficile parce que les rituels nous donnaient des repères à tous, accompagnants et accompagnés. Et les repères s'effritent. Je crois que accompagner, c'est encore se réjouir du minuscule. Et je partage cette formule avec Joël, qui est ma compagne, qui a mis au point cette formule à propos de la pédagogie en direction des personnes handicapées. Une pédagogie du minuscule, on pourrait dire une philosophie du minuscule. Se réjouir du minuscule. Non pas de l'insignifiant, non, non. Du minuscule, ce n'est pas parce que c'est minuscule que ça ne compte pas. Se réjouir du minuscule, et quelquefois, c'est tout à fait... Rien n'est spectaculaire, mais rien n'est insignifiant. Au-delà de tout cela, vieillir devient donc une sorte d'aventure dans laquelle... Découvrant ce pays étranger où nous invite Aragon, vieillir devient une aventure dans laquelle nous avons à remanier notre rapport au temps, au monde, aux autres, à soi-même. Mais nous ne pouvons le faire jusqu'à la mort que si nous sommes accompagnés. Parce que jusqu'à la mort, ce qui compte, c'est que quelqu'un nous dise « voilà ». Que j'attends quelque chose de toi, encore quelque chose de toi. Et que c'est difficile de le dire sans mentir. Parce qu'évidemment, l'autre à ce moment-là est plus que jamais sensible au mensonge. Et ça se voit tellement dans ces cas-là, bien sûr. Mais nous devenons capables de le faire à condition que nous soyons accompagnés. C'est-à-dire, si nous cherchons à briser l'isolement, et à respecter la solitude à l'intérieur de laquelle tous ces remaniements s'opèrent. Si nous devenons capables de faire cela, alors Ce chemin de vieillesse, il est indéniablement chemin de détachement et non pas chemin de renoncement, mais de détachement. Non pas de renoncement anticipé à la vie, mais de détachement de tout ce qui se rapporte à la vie. Que reste-t-il quand on a tout perdu ? L'essentiel, l'être. Pour finir mon propos, deux références. La première, je l'emprunte à Christian Bobin, dans un tout petit bouquin délicieux intitulé « La présence pure », petit bouquin qu'il écrit il y a déjà quelques années à propos de la maladie d'Alzheimer de son propre père. Lorsque son père entre en établissement, le petit bouquin, il commence comme ça. « Mon père est entré dans une maison dont il ne ressortira plus. Mon père a la maladie d'Alzheimer. » Tac. Les choses sont situées, c'est clair, etc. N'empêche qu'il analyse les choses de manière absolument délicieuse et souvent très poétique. Il nous dit, à propos des malades d'Alzheimer, mais regardez comme on pourrait le dire à propos de ceux qu'on appelle les grands vieillards ou à propos de ceux qu'on appelle les mourants, hein, ceux qui sont en phase de fin de vie, etc. Ces gens dont l'âme et la chair sont blessés ont une grandeur que n'auront jamais ceux qui portent leur vie en triomphe. Ces gens dont l'âme et la chair sont blessés ont une grandeur que n'auront jamais ceux qui portent leur vie en triomphe, Christian Bobin. Et puis, j'ai commencé avec Aragon tout à l'heure, j'arrive où je suis étranger. Et je voudrais essayer de terminer avec Aragon, parce que dans ce pays où il est étranger, pour pouvoir y évoluer, pour pouvoir y vivre sa vieillesse, il adresse à celle qu'il aime par-dessus tout, Elsa, il lui adresse une prière, il lui adresse une demande, il formule une demande d'une beauté définitive qui est la demande que nous adressent tous ceux qui vieillissent, tous ceux qui sont en train de mourir, qui préparent leur mort de manière pleinement consciente, moins consciente, il s'adresse à Elsa en lui disant « Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé, dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois sauvé. » Il avait compris que c'est la main qui sauve. Je crois que c'est ce que Jalmalve a compris depuis longtemps. Merci de votre attention. Merci. Et on a, si vous le souhaitez, alors d'abord, il y en a peut-être parmi vous qui sont pressés de rentrer et ils ont le droit, d'accord ? Donc, qu'ils se sentent absolument autorisés, voilà. De toute façon, on s'en fiche, on a les noms, donc, voilà. Et puis, si vous le souhaitez, on peut évidemment ouvrir du débat sur tel ou tel aspect.
Alors c'est vrai que c'est difficile de poser une question après.
Mais c'est peut-être même pas des questions, ça peut être
continuer des remarques finalement ou les échanges, oui.
Des réactions, des désaccords peut-être en plus. Pourquoi pas ? Alors, mais on peut avoir besoin de ces 2 minutes de silence aussi. Elles ne sont pas insupportables, mon Dieu. Hein ? On peut en avoir besoin. Alors, ça tourne, hein ? Ah oui. Ça vient.
ça à quelqu'un, comme tu l'as dit, quand l'argent ne sera pas la première chose que l'on voit. Voilà, c'est tout.
Merci, parce que c'est évidemment très important. Bien sûr. Bien sûr. Allez-y. Allez-y, allez-y. Merci d'avoir parlé la première.
Alors, ce n'est pas une question.
Non, non.
Donc, ça fait lien avec une expérience que j'ai eue il y a 3 ans. Et dans quelques jours, j'y retourne. Je pars en Inde.
Oui.
Ce qui a été merveilleux là-bas, c'est de me rendre compte. Alors, merveilleux et difficile à un moment donné, c'est de me rendre compte que c'est si difficile de vivre et si facile d'exister pour ces Indiens. Et la réalité que je me suis pris en pleine figure, c'était qu'ici, chez nous, c'était si facile de vivre et si difficile d'exister. Et voilà, alors j'y retourne en quelques jours, donc c'est avec bonheur que je vais pouvoir réexister avec eux, plein de moments extraordinaires. Je suis psychologue dans un hôpital, dans un secteur à Lusignan. Et voilà, ce plaisir d'exister, je le retrouve effectivement dans l'accompagnement des personnes âgées et puis aussi dans l'accompagnement que je fais avec eux, dans ce bout de chemin que je fais avec eux jusqu'à la mort. Et voilà. Et effectivement, le lien que je fais entre l'Inde et le travail que je mène, il est là, dans l'existence qui est là, dans la vie, jusqu'au bout.
D'accord. Merci.
Est-ce que ce n'est pas un temps aussi pour la réconciliation, tourner autour des secrets de famille
Ah là. Alors, ah oui, non, mais formidable, formidable, bien sûr. Remanier son rapport aux autres, évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr. J'ai vu avec plaisir tout à l'heure des petites affichettes annonçant une conférence de Jacques Ricot sur le pardon. Alors, là encore, je remercie Jacques Ricot, que j'aime beaucoup. Je le remercie d'avoir le culot de parler de pardon aujourd'hui, parce qu'alors, c'est quand vous lâchez ce genre de terme, évidemment, vous vous faites taxer de curaillerie ou de je ne sais quoi. Or, ce pardon qui soulage, autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Ce pardon qui libère, et qui est liberté, véritablement. En sachant que le plus difficile, c'est d'ailleurs souvent de se pardonner à soi-même. Mais il y a là, dans le rapport aux autres, tout un champ formidable à ouvrir autour du pardon, du pardon de ce qui a été vécu comme offense, comme injustice, etc., à l'intérieur de cercles familiaux quelquefois un peu exigus. C'est vrai. Oui, oui.
On peut le réécouter sur Postcard.
Bien sûr. Transmission également, bien sûr. Pardon, oui, oui.
Oui, parce que dans quelques jours, il y aura la possibilité sur le site de Mendès France d'écouter cette conférence.
Très bien, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Alors, oui, oui, oui.
Est-ce que l'euthanasie dont on parle de plus en plus, et je crains qu'on s'y approche, est-ce que ce n'est pas un refus justement de maintenir cette interdépendance et que notre société a peur que ça coûte trop cher au budget de notre sécurité sociale ?
Alors, il faut... comment dire ? Je vais vous répondre de deux manières. Je vais d'abord vous dire oui, bien sûr. Bon, oui, bien sûr. Tout de suite après, je voudrais dire quand même, attention, et je me le dis à moi-même, attention à ne pas devenir trop systématiquement simpliste dans ma propre réponse. Je veux dire que, d'abord, sous ce terme d'euthanasie, nous avons tendance à mettre des choses notoirement différentes, et en particulier à mettre en même temps à amalgamer l'assistance au suicide et la mort volontairement donnée, ce qui n'est évidemment pas la même démarche. Donc, attention à essayer de bien discerner les problématiques que l'on veut traiter au moment où on ouvre des réflexions comme celle-là. Voilà. Ceci étant, et pour un certain nombre de nos concitoyens, je crois effectivement que vous n'avez pas tort et que le raisonnement brutal, rapide et inhumain consiste à dire, puisque les vieux, les handicapés, les etc., etc., coûtent cher et qu'ils ne servent à rien, après tout, on pourrait bien s'en passer. Ce raisonnement-là, il est simplement un raisonnement d'eugénisme aussi odieux que ceux que l'on a connus au milieu de la moitié du XXe siècle. Voilà, c'est effrayant, c'est simplement effrayant. Mais ça nous guette. Hein. On n'est pas obligé d'y aller. Je crois vraiment qu'on n'est pas obligé d'y aller. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent la loi Leonetti plutôt bien faite ou très bien faite. Hein. Et je voudrais m'abstenir en plus de porter des jugements définitifs sur l'attitude de telle personne qui a demandé à un médecin d'alléger ses souffrances, etc. etc. Voilà. On a vite fait de parler du malheur des autres. On n'y est pas. On ne sait pas tout. Le médecin, il a un engagement de secret, de discrétion, qui lui interdit de dire publiquement un certain nombre de choses, et presque toujours il se tient à cet engagement de discrétion. Et par conséquent, on a vite fait de le faire parler, mais quand on l'écoute vraiment dans ce qu'il dit, il en dit beaucoup moins que ce qu'on lui fait dire, souvent, etc. etc. Donc il faut regarder tout ça avec énormément de... avec un gigantesque effort de discernement. Mais il reste que le danger d'aller vite vers des solutions expéditives, ce risque existe, oui, ce risque existe. D'autant plus que, subrepticement, on nous glisse dans le creux de l'oreille des différenciations du type on ne peut pas confondre un être humain et une personne humaine. Voilà. Ben voyons. Il existe même une échelle, hein, un score pour mesurer ce qu'il reste de la personne dans l'être humain. Vous voyez un peu. Hein. Je fais allusion là aux travaux de Peter Singer, pour s'il y a des gens qui veulent creuser ça davantage. Oui ?
Pour prolonger ta réponse et même sans doute l'étayer généreusement, il suffit, me semble-t-il, sur Internet, avec n'importe quel bon moteur de recherche, je sais pas moi, en francisant glouglou, quelque chose comme ça, il suffit de taper rapport mission SICARD, oui. SICARD. Et donc, vous accédez à un ouvrage très, très conséquent, merci. 150 pages, mais dont 30 pages d'annexes. Oui. Mais les 120 pages sont très, très, très lisibles, très, très, très accessibles. Et donc, il s'agit du rapport de la mission mandatée par M. François Hollande sur les conditions de fin de vie dans notre pays. Et il s'agit d'un travail de très, très grande qualité. Et donc là, c'est drôlement intéressant que la question et ta réponse permettent de faire une publicité. Là, c'est heureux usage de la publicité. Donc, je vous invite et je pense que Michel... Oui,
bien sûr.
Rapport mission SICARD, SICARD.
Oui, oui. Merci. Oui.
Oui, c'est que j'avais une question. Je serais vraiment ravi que tu développes là, quand tu as formulé au tout départ comment avons-nous pu transformer ce qui était une question en un problème. Qu'est-ce qui nous est arrivé sur le plan sociétal et culturel pour que la mort, le vieillissement, qui étaient des questions, soient devenus des problèmes.
Alors, je crois vraiment que le moteur de cette transformation, c'est la peur. La peur de la mort, d'une part, la peur de la perte, d'autre part. Je crois, et du coup, nous avons eu progressivement, personnellement et ensemble, une incroyable tendance à réduire, à ne regarder la vieillesse et la mort que comme des catastrophes prévisibles, mais certaines. Hein ? C'est vrai encore aujourd'hui dans notre manière de parler quand nous regardons la façon dont les médias se font l'écho de ce qui se passe dans la société contemporaine. Non seulement nous faisons de la vieillesse un problème, mais ce problème s'appelle maladie, puisque le spécialiste, c'est le gériatre, à peu de choses près, quand ce n'est pas délit. Nous sommes en train, je crois, de franchir une étape supplémentaire. La vieillesse est en train, nous sommes en train collectivement de construire la vieillesse comme un délit. Le délit de vieillesse est en train de se constituer. On pourrait en prendre plusieurs exemples. Les uns m'affolent, d'autres me réjouissent. Mais par exemple, lorsque son nom m'échappe au moment où je veux le dire, tout récemment, il y a moins d'une semaine, la personne qui est au niveau national chargée, le contrôleur des prisons, lorsqu'il dit qu'il souhaite rentrer dans les EHPAD, moi je m'en réjouis parce que ça fait plus de 20 ans que je dénonce les restrictions abusives de liberté dans les établissements d'accueil pour personnes âgées. Je ne dis pas qu'il n'y ait que des restrictions abusives de liberté, mais il y en a beaucoup, nous le savons bien. Donc je me réjouis qu'il aille y mettre son nez, d'accord ? Mais qu'est-ce que c'est que ce raccourci entre la prison et l'EHPAD ? Quand on sait qu'en plus, en 2008, au tribunal de Caen, un juge condamne, je cite le journal Le Figaro, un vieillard de 74 ans, fin de citation, le condamne pour une histoire d'arnaque à la carte bleue et au compte bancaire, etc., le condamne à une peine de prison et lui donne le choix entre la prison et la maison de retraite. D'accord ? Vous, les uns et les autres, vous avez pu avoir la même expérience que moi. Je me souviens, au moment du débat à l'occasion de la dernière réforme des retraites en France, il y a eu un débat que l'on a pu les uns et les autres apprécier différemment. On a pu le trouver trop superficiel, pas assez ceci, pas assez... Soit, mais il y a eu quelque chose. Je me souviens, un jour, pendant cette période-là, je rentre dans un établissement, ça se passe dans les Deux-Sèvres, je rentre dans une maison de retraite et je discute avec des personnes âgées habitant dans cet établissement. Et vous voyez que là, je parle déjà d'une manière peu académique, hein, parce que normalement, on devrait dire des résidents. Bon. Bref, je parle avec une dame en particulier, dont j'apprends ensuite qu'elle avait 92 ou 93 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Il est presque 13 heures. On est debout dans l'entrée de l'établissement et il y a un écran de télévision gigantesque qui diffuse TF1. Ça ne peut pas être autre chose. On est d'accord ? C'est des vieux. Alors, TF1. Bon. Donc, Jean-Pierre Pernaut apparaît à l'écran et balance les titres du journal télévisé. La réforme des retraites, la France est dans la rue, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, tagada, tagada. Voilà. Des centaines de milliers de Français sont dans la rue. Oui, tout ça est vrai. Voilà. Et puis, les titres sont finis. Et du coup, notre attention décroche de l'écran. Cette dame se retourne vers moi et me dit « Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. » Voilà. Vous le voyez, le délit de vieillesse, il est constitué. Elle en a intégré la culpabilité. Comment s'y est-on pris ? Oh, de multiples manières. Par exemple, en parlant du poids des vieux dans le déficit de la sécurité sociale. Par exemple, en parlant de prise en charge, là où on devrait parler de soins et d'accompagnement. Non, les vieux ne sont pas une charge. Ils sont même le moteur de l'économie, quand même. L'argent des vieux, c'est l'emploi des jeunes. Et on s'apprête... Enfin, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? C'est incroyable, ça. D'accord ? Bon. Donc, on s'y est pris de multiples manières. Tout le discours terrible, assassin, le discours sur la dette que les vieux vont laisser aux jeunes. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours-là ? Enfin, le discours, c'est un déni de solidarité intergénérationnelle. Mais après, on va nous jouer le violon de la solidarité, des rapports entre les générations. Il y a même des financements européens pour ça. Attendez, non, il n'y a pas de... Il faut reconsidérer ça profondément. Voilà. Alors, comment on est passé du mystère au problème ? Je crois qu'entre les deux, c'est la peur. Et que cette peur, elle est notoirement alimentée par les questions d'argent. Pas uniquement, mais notoirement. Mais pas uniquement. Il y a aussi la peur, je dirais, la peur métaphysique de la mort. Bon.
Peut-être aussi par le fait que les familles sont de plus en plus étroites. Enfin, je veux dire, autrefois, il y a plusieurs générations. Souvent, notamment dans les campagnes, plusieurs générations cohabitaient. Les enfants, quand un décès survenait, les enfants, toutes les personnes voyaient petit à petit la personne se préparer à mourir. Le mort restait là avant d'être enterré. Enfin, je veux dire, il y avait une... Je ne sais pas comment qualifier ça.
La mort faisait partie de la vie.
Tandis que maintenant, les familles sont souvent composées de très peu de membres, avec en plus deux générations maximum. Et en plus, on cache la mort aux enfants. On n'a jamais idée d'emmener un enfant voir une personne très âgée, en fin de vie, quelque part. Alors, je ne dis pas qu'il faut les
une fois par an, si, parce que, vous savez, les vieux croient encore au Père Noël et donc ils donnent des étrennes.
Oui, mais enfin, bon, à part ça. Mais pas... Enfin, je veux dire, on a tendance... Enfin, moi, j'ai enseigné en maternelle, je vous assure que vraiment...
Oui, bien sûr.
On leur occultait ça. Heureusement, il y a encore des contes, les contes de fées, qui parlent de temps en temps de cet événement-là, mais à part ça... Dans la réalité.
Il y a eu un très beau travail de fait par Geneviève Arfeux-Vaucher sur la vieillesse et la mort dans les livres pour enfants, qui a été publié par la Fondation nationale de Géronto.
Heureusement. Alors, ouais. Bon, peut-être aussi qu'il y a une incidence.
Oui, bien sûr.
Moi, je suis grand-mère comme vous, donc je m'interroge beaucoup. Mon papa est en fin de vie, justement, précisément à Lusignan. C'est quelque chose évidemment qui me travaille beaucoup en ce moment. Et mes petits-enfants sont venus voir leur grand-père avec leur maman. Ils en ont discuté auparavant, bien entendu. Ils en ont discuté après. Et mon petit-fils de 10 ans a très bien su resituer ces événements-là.
Et ce que vous dites là m'amène à souligner le fait qu'il nous faudrait de plus en plus apprendre à penser de manière complexe, systémique. Mmh. C'est-à-dire, lorsqu'une chose change... les autres choses changent en même temps. Mmh. Lorsque les familles se transforment, elles se transforment parce que l'économie les transforme, pas que pour ça, mais notoirement pour ça. Mais quand l'économie se transforme, que les familles se transforment, que l'habitation se transforme, que le rapport à l'espace bâti se transforme, etc., les distances se transforment également, et par conséquent, le rapport à la maladie, le rapport à la mort, le rapport à la vieillesse, tout ça change aussi.
Ouais. Oui, et que chacun étant une personne, ces personnes ont vécu des moments d'histoire.
Oui.
Enfin, mon père a été déporté à Dachau, en plus,
pour
vous.
Bon.
Oui. Donc, il y a tout ça aussi qui est en jeu. Enfin,
Et oui.
Bon. c'est quelque chose d'humain.
Mais oui. Alors, il est 22h15 ou 16, et nous devons impérativement quitter les lieux à 22h30. Voilà. Donc, selon ce qu'il reste à faire...
Alors, c'est quelques informations. Si vous voulez poursuivre cette réflexion, le CHU organise, vous savez, régulièrement des cafés éthiques. Et le prochain café éthique est le mardi 19 mars à 18h, hein, dans le satellite de Jean Bernard, au CHU de Poitiers. La mort sociale, le titre, la mort sociale, réalité et fatalité du grand âge, point d'interrogation. C'est animé par le docteur Isabelle Mijon du Ballet, qui est gériatre, David Doga, qui est psychiatre, et Benoît Dutrège, qui est interne. Sylvie Marolo, qui est une infirmière en psychiatrie, et Monsieur Gilles, qui est le régulateur de ce café éthique. Donc, ça vous permet éventuellement. Je remettrai cette petite fiche à quelqu'un qui me l'a demandé, j'en ai qu'une. D'autre part, toujours dans l'éthique, donc il y a un espace éthique au CHU de Poitiers, et puis il y a un espace éthique qui s'est constitué, et Monsieur Billet pourrait en parler parce qu'il en fait partie, à Ruffec. Donc pour ceux qui habitent le sud de Vienne ou même Poitiers, hein, donc ce centre éthique, enfin ce, je sais pas comment, espace de réflexion éthique organise une conférence, enfin un débat, avec Monsieur Éric Fiat, c'est un philosophe que vous connaissez peut-être. Et Monsieur Gilles et Monsieur Billet. Donc c'est le 8 avril à 20h30 à Ruffec, à la salle Canopée, là aussi. Une autre information, et Monsieur Billet en a un peu parlé, Vivre son deuil. Donc Vivre son deuil, c'est une association qui regroupe toutes les associations qui font du soutien au deuil. Et notamment, Jonathan Pierre-Vivante, là, dans le cas présent, cette association organise donc une conférence-débat sur le pardon avec la venue de M. Jacques Ricot, et vous pouvez le noter, le lundi 25 mars à 20h, et c'est à la maison de la Gibauderie. Hein, voilà. Donc, toutes ces informations, on peut vous les faire passer par mail pour ceux qui ont des mails et qui sont adhérentes à l'association. Et puis, Vivre son deuil organise régulièrement des cafés deuil. Et le prochain café deuil, c'est le mardi 19 mars à 19h au bar-restaurant Le Martel. Vous savez, c'est ce bar-restaurant qu'il y a au-dessus de la prison. Voilà. Hein, donc, c'est une entrée libre. Et ces cafés deuil sont intéressants pour les personnes qui sont pas encore... qui peuvent difficilement en parler en famille, qui sont pas encore prêtes d'aller voir quelqu'un, qui ne sont pas encore prêts de faire le pas vers une association ou vers un psychiatre, mais qui peuvent là trouver des gens compétents, et d'autres personnes en deuil vont échanger. Voilà, donc voilà ces différentes informations. Madame Guiton, vous nous rappelez pour aller l'information du site.
Il est inscrit sur la fiche de Courbe.
Ah, voilà.
EMF.fr, la quatrième ligne en partant
du. Ici. Voilà. Donc, nous remercions Monsieur Billet et nous pouvons l'applaudir. Merci de la qualité de sa prestation. Merci encore à vous et bonsoir.